Donc vous, je peux dire que c'est un grand privilège pour moi d'avoir cette occasion de prêcher en français. J'ai prié pour beaucoup pour un grand courage de me lever devant vous pour m'exprimer en français parce que c'était depuis longtemps que je parle le français. J'ai la confiance en Dieu qu'il m'ait donné le pouvoir de m'exprimer et pour vous donner la compréhension dans toutes choses. Ce soir, nous allons étudier une leçon dans la Bible qui est très importante concernant les derniers jours. Nous allons étudier les choses à venir, c'est-à-dire ces choses qui étaient prophétisées dans la Bible, et nous allons étudier comment la Bible a prophétisé ces choses et comment ces choses étaient accomplies dans le cours de l'histoire exactement comme il était prophétisé. La chose qui est fascinante dans la Bible est que la Bible a donné ses prophéties pas comme une prophétie isolée, parce que c'est les prophéties de la Bible sont des prophéties isolées. Vous pouvez dire, alors c'est une prophétie, et cette prophétie était remplie dans le cours d'histoire, peut-être par hasard. Si cette prophétie était une prophétie, et elle était accomplie dans le cours d'histoire, et vous dites que cette prophétie était accomplie par hasard, peut-être nous n'avons pas d'une grande preuve pour vous convaincre que ce n'était pas par hasard. Mais quand les prophéties de la Bible étaient prophétisées dans des chaînes des événements, c'est impossible pour tous les événements à être accompli dans le cours de l'histoire par hasard. C'est impossible pour quelqu'un à dire ses prophéties, toutes ses prophéties, étaient accomplies par hasard. Cette personne doit être faible d'esprit, totalement, car c'est impossible. Ce soir, nous allons voir une chaîne des événements, plusieurs, peut-être 17 événements, pas un événement, pas deux, pas trois, pas cinq, 17 concernant événements spécifiques dans l'histoire de nos jours. Maintenant, presque chaque jour, quand vous entendez les nouvelles sur la télévision ou la radio, vous allez entendre ces choses de la Bible, mais par les rapports journalistes. Et peut-être après entendre le message de ce soir, vous allez croire que la Bible était écrite par un rapporteur, parce que elle est up-to-date, à date. Pour savoir ce que je dis, ouvrez votre Bible, s'il vous plaît, à Zacharie, chapitre 11. Chapitre 11. Liban. Alors, ce soir, je parlerai concernant la guerre sectarienne au Liban. La guerre religieuse sectarienne entre les musulmans et les chrétiens au Liban. Et nous allons étudier comment la Bible a prophétisé tous les événements de cette guerre. Faites attention, ces choses que la Bible a prophétisées concernant ces choses n'ont été pas accomplies dans nulle époque de l'histoire excepté maintenant. Seulement pour nous montrer que cette Bible est la parole d'un Dieu souverain. Il a dit, « Liban, ouvre tes portes et que le feu dévore tes cèdres. » Ici, la Bible parle au Liban. Au Liban, qui a une identité politique, il parle à un pays nommé Liban. C'est une prophétie de la plus fascinante prophétie de la Bible. Parce que ici, la Bible parle au Liban. Zacharie, chapitre 11, verset 1. Zacharie, chapitre 11, verset 1. Ici, la Bible parle au Liban comme un pays. Et comme j'ai dit, c'est une prophétie peut-être une de plus fascinantes de la Bible. Pourquoi? Parce qu'il parle au Liban comme un pays. Comment nous pouvons savoir que la Bible parle au Liban comme un pays? Parce que de versets 4 et 5. À versets 4 et 5, il dit, « Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu, paye les brebis destinées à la boucherie. » La Bible a appelé le peuple de Liban les brebis. Les brebis, c'est la population générale, les brebis. Et il dit à verset 5, « Ceux qui les achètent les égorgent impunément. » Ici, la Bible parle des politiciens dont la Bible hébreu et dans la Bible anglais et arabe, le mot est les posséders qui les achetaient. Posséders dans la Bible, ce sont des gens dans l'histoire ancienne, chaque ville, petite ville, a eu une, deux ou trois personnes qui possédaient toutes choses dans la ville. Les bâtiments, les hommes de commerce, les fermes. Et tout le monde travaille pour eux. Et ils sont les uns qui donnent la détermination finale de cette ville. Ils sont les possédeurs dans l'histoire et dans la Bible. Ce sont les politiciens de son jour aussi. Les politiciens, ce sont qui décident pour la société. Au Liban, jusqu'à maintenant, ce sont les possédeurs. C'est parce qu'ils possèdent toutes choses dans leur ville, c'est pourquoi il était élu au Parlement. Ce sont les possédeurs. Et la Bible a dit, leurs possédeurs les achetaient et les égorgent impunément. Nous viendrons à ce verset de nouveau. Celui qui le vendit, bien soit l'Éternel, car je m'enrichis, et leur pasteur ne les épargne pas. Ici, le pasteur, ce sont les leaders religieux. Ici, la Bible parle à tout le pays. Les brebis, c'est la population générale, les politiciens et les leaders religieux. Mais vous pouvez poser cette question. Quelle est la grande importance en la Bible parlant au Liban comme un pays? C'est la plus grande surprise que la Bible a parlé au Liban comme un pays. Pourquoi? Parce que dans toute l'histoire, du commencement jusqu'au le jour 22 novembre 1943, il n'y avait pas de Liban. Il n'y avait pas un pays nommé ou appelé le Liban. C'est-à-dire, ma Bible a parlé au Liban 2500 années avant Liban était créé. Avant Liban a apparu dans l'étage de l'histoire. Pouvez-vous comprendre? C'est magnifique. Cette connaissance est au-dessus de moi. Parce que si vous avez vu avec Zacharie et vous avez dit à M. Zacharie, hey, « Hé, mon ami, où est ce Liban de quel vous avez parlé? Où est ce pays, le Liban ?» Il va répondre, comment je sais? Je ne sais pas. J'ai seulement écrit le livre. Je ne sais pas ce que j'écris. Je ne sais pas. C'est pourquoi je dis, écoutez, ainsi parle l'Éternel, mon Dieu, pas moi. Je ne donne pas la prophétie, ce n'est pas ma prophétie, c'est la prophétie de Dieu. C'est pourquoi nous appelons la Bible la parole de Dieu, pas des hommes. Et la Bible n'a pas seulement parlé au Liban, mais la Bible a donné les exacts événements qui domineraient les scènes au Liban. Laissez-moi vous donner un peu de l'histoire de ce territoire que nous appelons maintenant Liban.
De 3000 ans
avant Christ jusqu'à 64 avant Christ, ce territoire était divisé dans quatre royaumes. Le royaume de Tyr, le royaume de Sidon, le royaume de Byblos et le royaume d'Arvad. Il n'y a pas le royaume de Liban. Quand Solomon a voulu de bâtir le temple, il est allé au roi de Tyr demander le cèdre. Il n'y avait pas un royaume de Liban. Au temps-là, il était le mont Liban. Mais le mont Liban, pendant cette période, pendant le 3000 ans, pendant la Bible était écrite, il n'y a personne vivant à Mont Liban. Parce que Mont Liban était couvert avec des forêts et le seul habitant de Mont Liban était les lions, les loups, les tigres et la vie sauvage. C'est pourquoi le peuple ne peut pas vivre dans les montagnes. Ils vivent sur le côte de la mer. Il n'y avait pas un pays appelé le Liban au temps-là. En 54 avant Christ, l'Empire romain est venu et abolir les royaumes au Liban et diviser le territoire dans deux colonies. La colonie du sud était annexée aux colonies d'Acre et la partie du nord était annexée à la colonie de la Syrie. Et il n'était pas nommé ou appelé la colonie de Liban. Il n'y a pas de la colonie de Liban. Et il était comme ça depuis 64 avant Christ jusqu'à 1918 après Christ. Pendant ce temps-là, les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Fatimites, les Koussades et les Turcs sont venus suivant les uns après les autres et coloniser ce pays. Mais quand les Turcs sont venus au Moyen-Orient, ils sont musulmans, et les chrétiens de ce territoire étaient oppressés cruellement. Depuis 1516 jusqu'à 1918, 400 ans. C'est pourquoi, en 1914 et 15, quand les Arabes demandaient leur indépendance de l'Angleterre et la France pour leur aider dans leurs efforts de guerre contre l'Allemagne et la Turquie, la France a accepté de donner l'indépendance aux Arabes à condition de créer un nouveau pays où les chrétiens auront la majorité. Les Arabes acceptent. Et la France crée un nouveau pays ouest de Damas, c'est la capitale de la Syrie, en prenant Mont Liban et les plans côtiers, et elle nommait le Grand Liban. La Ligue des Nations a mis le Grand Liban sous le mandat français jusqu'à 1943. Et le 22 de novembre 1943, le Grand Liban a gagné son indépendance et la première chose faite par le nouveau gouvernement est changer la constitution et changer le nom du pays de le Grand Liban à le Liban pour la première fois. Et ici, la Bible parle au pays du Liban au 6e siècle avant Christ, 2500 ans avant le Liban était créé. Maintenant, faites attention au nom que la Bible a donné les Libanais après leur indépendance. Verset 4. Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu, paye les brebis destinées à la boucherie. C'est les brebis de la boucherie. Paye, c'est-à-dire donner à manger, afin qu'il devienne gros et gras, et après ça, vous prenez les brebis aux boucheries pour tuer. Maintenant, au Liban, parce que de cette guerre sectarienne au Liban, nous avons 80, not 8, not 18, c'est 80% de toute la population du Liban était tuée, déplacée ou blessée. C'est une population de boucherie. 80% de toute la population. Il n'y a rien comme ça dans toute l'histoire que telle chose était accomplie au Liban avant maintenant. Rien. 80% de toute la population devient mort, blessé ou déplacé. C'est pourquoi la Bible a nommé, a appelé la population du Liban les brebis de la boucherie. Listen, faites attention. Ici, la Bible a dit au verset 4, paye les brebis. Paye, c'est-à-dire, donnez-le à manger. Au Liban, parce que de la situation spéciale au Liban entre les musulmans et les chrétiens, les leaders au Liban ont donné leur peuple, les chrétiens et les musulmans, la nourriture juste pour devenir amèrement les uns contre les autres. Ils leur donnent jour après jour après jour comme la nourriture psychologique de devenir les uns contre les autres. C'est pourquoi la guerre civile à Liban a continué maintenant cette année, c'est la 13e année. La guerre a commencé en 1975. Maintenant, nous sommes en 1987. C'est 13 ans en combattant les uns les autres, en tuant les uns les autres. 80 de toute la population était affectée. Et il ne peut pas arrêter leur massacre des uns des autres. Parce que la Bible a dit, ils sont nourris par son nourriture amère et ils ne peuvent pas arrêter. Pourquoi ils luttent au Liban? Cette question était posée toujours. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette lutte continue au Liban. En 1918, les chrétiens voulurent une république où ils deviendront la majorité. La France leur donnait leur désir et créait un nouveau pays où les catholiques est devenu la majorité dans ce pays-là. Mais il était une petite majorité. C'est pourquoi à l'indépendance au Liban, les catholiques étaient 52% de la population, les musulmans étaient 48% de la population. Mais en 1952, une vague d'émigration a commencé au Liban. Environ 300 jeunes gens du Liban ont émigré à la France, à l'Europe, à l'Afrique d'Ouest et à l'Australie. Et la majorité de tous ceux qui ont émigré dehors du pays étaient chrétiens. Quand je mentionne le mot chrétien, c'est-à-dire pas musulman, et surtout catholique. C'est pourquoi, quand j'étais catholique au Liban, il m'a dit « quelle est votre religion ?» J'ai répondu « chrétien ». Mais après accepter le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, il m'a demandé « quelle est votre religion ?» J'ai répondu « je suis un croyant en Jésus-Christ » ou « je suis converti » ou « je suis baptiste ». Mais le mot « chrétien » est très général. C'est pourquoi je n'ai pas utilisé ce mot souvent là-bas. Maintenant, les chrétiens ont commencé à émigrer hors du pays. Mais les musulmans n'ont pas seulement resté dans le pays. Chaque musulman peut marier 4 femmes. Et en mariant 4 femmes, vous pouvez avoir beaucoup d'enfants. Et je vivais la plupart de ma vie au Liban, à Beyrouth de l'Ouest. C'est la partie de Beyrouth qui était dominée par les musulmans. Et dans le matin que nous sommes allés à l'école, vous pouvez avoir le petit la porte ouverte et vous pouvez penser que toute l'école élémentaire est venue dehors immédiatement. Spécialement où 4 femmes vivent là-bas. C'est pourquoi, après 1965, la population du Liban a changé d'être la majorité chrétienne, devenue la majorité musulmane. Le musulman a dit, selon la constitution du Liban, maintenant il faut avoir la présidence du pays. Les chrétiens paniquaient parce que dans tous les pays arabes, les chrétiens étaient traités comme des deuxième classe de citoyens. C'est pourquoi ils ont pensé si les musulmans prendront l'autorité et le pouvoir politique au Liban, les chrétiens perdront toute chose. C'est pourquoi ils refusent de donner la présidence aux musulmans. C'est pourquoi la guerre a commencé au Liban entre les chrétiens et les musulmans. Les musulmans désirent la présidence et les chrétiens, les catholiques, veulent de retenir cette présidence. C'est pourquoi il y a une guerre civile sectarienne au Liban. La Bible a dit ici aussi, verset 5, « Ceux qui les achètent les égorgent impunément. » La Bible ici, comme j'ai dit, il parle de politiciens. Les politiciens sont la cause de toute la boucherie au Liban, parce qu'ils ont le désir de l'autorité de pouvoir politique du pays. Et maintenant, nous avons 80% de toute la nation été tués, blessés ou déplacés parce que les politiciens avoir ce désir irrésistible pour l'autorité et le pouvoir. C'est pourquoi la Bible a dit, leurs politiciens les égorgent impunément, remords, sans conviction. Il y avait un reportage du Liban sur la télévision Et tout le monde a vu ce reportage aux États-Unis. Et le rapporteur a demandé d'un politicien au Liban, pourquoi tu n'aides pas à apporter la paix au Liban? Et le politicien libanais a dit, si nous ne gagnerons pas ce que nous demandons, nous allons détruire ce pays. Et dans tout le reportage, il n'a pas dit, pas une fois, qu'il était triste pour la situation, qu'il était triste pour tuer les bébés, les enfants, les femmes, les anciens. Il n'était pas triste. Mais il était insistant que le pouvoir politique appartient à lui, parce qu'il est musulman et il a la majorité maintenant. Il n'y avait pas de conviction ni remords. Et c'est exactement ce que la Bible a dit. Et ces choses sont accomplies pour la première fois dans l'histoire libanaise. Écoutez maintenant ce que la Bible a dit. Verset 5. Celui qui le vend dit, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Si il était les chrétiens ou les musulmans maintenant, on dit béni l'Éternel parce que nous luttons pour lui, pour son cause. Ils ont fait Dieu la cause de la lutte et la guerre libanaise. Exactement comme la Bible a dit, il déclare aujourd'hui. C'est pourquoi mon Dieu a répondu en disant, en verset 5, « Je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays, dit l'Éternel. Et voici, je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leur roi. » Écoutez, « Je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays. » C'est une phrase effrayeuse, venant de Dieu lui-même, qu'il ne soit pas plus de miséricorde sur le Liban. Et après ça, il a dit, écoutez, et voici, je livre les hommes aux mains les uns des autres, je livre le voisin à son voisin. Aujourd'hui, au Liban, l'homme le plus dangereux contre toi et votre voisin. Aujourd'hui, les voisins tuent son voisin librement. Ma cousine a une villa dans la montagne au Liban et leur maison était sur trois acres dans la montagne. Et leur driveway... What's driveway? Driveway? C'est un bon français. Leur driveway est un long driveway. Et personne ne peut pas conduire son voiture ou marcher sur cette driveway sans permission. Autrefois, il sera tué par le fusillage ou par grenade ou whatever. Il faut avoir une permission pour marcher ou conduire sur cette driveway. Il était protégé militairement très très bien, très fortement. Mais un jour, ma cousine, leur mari et leurs trois enfants, ils ont 17, 19, 20 ans. Ils étaient des batteurs, I mean fighters. Et toute la famille était tuée dans leur salon, sans résistance. Et il n'y a pas une possibilité qu'un étranger qu'elle les tuée. Absolument, étaient des voisins qui sont avec très confiance à mes relations. Et ces choses sont arrivées au Liban, toujours, où les voisins tuent leurs voisins. Alors, cette guerre au Liban est une guerre très différente que toutes les guerres civiles dans toute l'histoire, partout. Pourquoi? Parce que une guerre civile est strictement entre deux factions de peuples. Elle a commencé au Liban comme ça, les chrétiens contre les musulmans. C'était comme toutes les guerres civiles historiques. Mais la Bible a dit une autre chose ici. Écoutez, je livrerai les hommes aux mains les uns aux autres. Les voisins contre voisins, en anglais, en arabe et en hébreu, on dit. Les voisins contre voisins. Pas seulement deux factions distinctes les uns contre les autres, mais les voisins contre les voisins. Au Liban, la guerre a commencé, les chrétiens contre les musulmans. Mais 6 semaines après la guerre a commencé, les leaders musulmans, debout contre les uns contre les autres, leurs hommes ont commencé de tuer les uns les autres. Quelques semaines après ça, les leaders chrétiens ont commencé de lutter les uns contre les autres. Leurs hommes ont commencé de tuer les uns les autres. Et maintenant, depuis 1975, au Liban, les chrétiens tuent les chrétiens, les musulmans tuent les musulmans, les chrétiens tuent les musulmans tuent les chrétiens. La situation au Liban est très confuse. Vous ne pouvez pas savoir qui est votre ennemi et qui est votre ami. Et la Bible a prophétisé ça 2500 ans avant qu'il était arrivé. Alors, il y a quelque chose que je veux partager avec vous. En Ésaïe, chapitre 33, c'est parce qu'il fait très chaud, je peux vous aller un peu bientôt. Mais il faut voir ce que la Bible a dit dans ce verset très vite. Verset 7. Voici les héros poussent des cris au dehors. C'est très important de savoir que de verset 7 à verset 9, la Bible parle de Liban. C'est pourquoi, si vous ne pouvez pas comprendre ça, il sera impossible de vous comprendre le message derrière ce verset. Verset 7 a dit que les héros poussent des cris en dehors. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En comprenant les versets de la Bible, il faut comprendre aussi l'histoire et les situations de quelles la Bible parle. Ici, la Bible parle de Liban. Et il faut savoir aussi que chaque ville au Liban et chaque village est divisé. Un demi de la ville appartient aux chrétiens et l'autre appartient aux musulmans. Et si un chrétien est attrapé par les musulmans ou un musulman attrapé par les chrétiens, on dit au Liban, il était attrapé dehors. Et quand il était attrapé, il pousse des tortures contre lui, assez pour les héros à pousser des cris et leur supplier, leurs torturers, de leur finir la vie, leur tuer. La Bible a dit ça. Et la Bible a continué à dire, en verset 7, chapitre 33 d'Ésaïe, les messagers de paix pleurent amèrement. Messagers, ambassadeurs. La première personne qui a envoyé un messager, un ambassadeur de paix au Liban, était le pape. C'est parce que la moitié de la population était catholique, c'est-à-dire les membres de son église, et les autres étaient musulmans qui ont de grands respects au pape parce que, à son stance concernant la cause palestinienne, il a pensé, c'est qu'il a envoyé un ambassadeur de paix au Liban. Cet ambassadeur va apporter les chrétiens et les musulmans à une table de négociation pour apporter la paix au Liban. Mais cet ambassadeur, ce messager de paix, était au Liban pour 3 semaines, et quand il est parti du Liban, elle a donné conférence de la presse à l'aéroport, et il a dit, je ne peux pas faire aucune chose ici parce que tout le monde ici veut lutter au lieu d'avoir la paix. Et il a, devant les caméras des télévisions, il a pleuré. Après ça, la France a envoyé son ex-premier ministre, M. Guy Mollet. Et M. Guy Mollet a été envoyé au Liban, et il a dépassé 2 ou 3 semaines en essayant d'apporter les luttants, les combattants, à une table de paix, mais misérablement, il échoue. Et de nouveau, M. Guy Mollet a crié, pleuré devant les caméras dans sa conférence de la presse à l'aéroport. Après ça, la Syrie, l'Égypte, la Ligue arabe, la Saoudi-Arabie, Kuwait, les États-Unis ont envoyé des ambassadeurs de paix, messagers de paix, au Liban, plusieurs des messagers de paix. Mais il ne peut pas faire aucune chose pour arrêter les massacres au Liban. Et en 1983, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Italie ont envoyé des troupes au Liban pour séparer les combattants au Liban. On appelait ces troupes the peacekeeping forces. C'est les forces pour garder la paix au Liban. Ce sont des messagers de paix. Mais dans octobre, le 23, 2 personnes ont rempli leur voiture, chacun avec 400 kilogrammes de TNT. Là, a conduit son voiture contre les quartiers généraux des marines américains, et l'autre a conduit sa voiture contre les quartiers généraux des marines français et détenu leur voiture. 241 Américains est tué et 82 Français marines est tué. Et le monde entier ont vu les ambassadeurs, les messagers de paix, les autres marines, pleurer comme des bébés, amèrement, exactement comme la Bible a dit. Ces choses ne sont pas venues dans l'histoire, excepté maintenant, dans cette chaîne des événements, pour la première fois, pour nous donner ce que le prophète ici n'est pas M. Isaïe ou Zacharet ou Jérémie, c'est Dieu lui-même. En donnant ces prophéties exactes, spécifique des choses qui viendraient. C'est pourquoi la Bible a dit ces choses doivent viendre. Ce n'est pas de guess and guessing. What's guessing? Hein? Deviner. Ce n'est pas deviner. C'est de la divinité. Ce sont des choses pas seulement très exactes, ce sont, la Bible a dit, c'est des choses qui doivent arriver. Parce que je suis Dieu et je sais ce que je dis à toujours. Et il a continué en disant, en verset 8, les routes sont désertes, pas au Liban. Les routes sont désertes, oh mon Dieu. Je n'ai pas pu croire cette prophétie. C'est impossible pour les chemins au Liban de devenir désertes. Parce qu'au Liban, parce que, par exemple, Beyrouth est seulement 12 000 carrés. 12 000 carrés, c'est-à-dire environ 18 kilomètres carrés. Et il y a dans 18 kilomètres carrés un million de personnes. Sure, Montréal est plus grand de Beyrouth, mais pas par capita per kilomètre. Non. Au Liban, vous ne pouvez pas, au Beyrouth, vous ne pouvez pas voir une maison, seulement maison. Vous ne pouvez pas voir des maisons. Toutes les choses là-bas sont des bâtiments avec appartements. Il n'y a pas de maisons. Toutes les choses sont des appartements. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Si Beyrouth est comme presqu'île, il n'y a pas de place. Et il y avait là-bas environ 200 000 de voitures. And do you think you have traffic jams? Il faut aller au Beyrouth. C'est pourquoi il était impossible pour moi de comprendre cette prophétie que les voies, les rues, les routes devenues désertes. C'était impossible pour moi de croire ou de comprendre. Mais pour environ 13 ans, je vois les nouvelles aux télévisions et je vois les mêmes routes et les mêmes rues qui étaient swarm, pourraient de tout le monde était sur les routes. Maintenant, les routes et les rues sont désertes. Exactement comme la Bible a dit. Exactement.